Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Et c'est avec une question de plus en plus fondamentale que nous allons ouvrir cette émission. À l'heure où la hausse des prix alimentaires fait craindre une aggravation de la situation déjà précaire de nombreuses personnes et où les politiques s'intéressent au pouvoir d'achat des ménages, comment bien manger à petit prix? Comment faire quand on vit dans des déserts commerciaux? Comment s'offrir une tomate locale qui coûte deux fois plus cher que celle provenant du Maroc? Comment consommer bio ou local quand aucun producteur n'est présent sur le marché? Vu d'un porte-monnaie moyen, le budget consacré à l'alimentation a plutôt chuté ces dernières années. Et l'idée selon laquelle manger en circuit court et bio est cher est une idée tenace. Face à ce constat, les initiatives se multiplient, à l'instar de VRAC, une association qui lutte depuis 8 ans maintenant contre cette idée reçue, celle-là et celle qui veut qu'un pauvre soit condamné à mal manger.
Il arrive un moment, on ne peut pas. Alors vous savez, prendre des boîtes de conserve, des pâtes, c'est très bien quoi, ça permet de faire 2-3 repas. Alors, hop, voilà. Non. Vous savez, on n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri un jour de se retrouver là. Personne. J'ai 510 euros par mois, je vous dis exactement ce que j'ai. Et une fois que j'ai payé mon loyer et tout, il me reste 120 euros.
120 euros pour manger ?
Pour manger pour le mois.
Ça fait pas beaucoup.
Ça fait 4 euros et quelques par jour. De la viande, j'en achète pas. Du poisson non plus, bien sûr. De temps en temps du poulet, malheureusement c'est très rare. J'achète beaucoup, voilà, des féculents, des conserves. J'accommode avec du jambon. J'essaie de m'arranger comme je peux. Je suis dans la débrouille.
Tout le temps.
Tout le temps. Et ce qui me chagrine, et ce qui me fait le plus, c'est de pas pouvoir plus gâter mes petits enfants. C'est-à-dire que si on sort quelque part, si je suis avec eux, je vais mettre, par exemple, je vais me débrouiller par les sous de mes repassages, les garder pour payer le McDo. Je ne vais pas faire payer le McDo à mes petits-enfants.
Bonjour Boris Tavernier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes le fondateur de VRAC. VRAC, c'est Vert, un réseau d'achat commun. Et c'est un réseau, une association qui permet aux populations les moins aisées d'accéder à une alimentation de qualité. Est-ce que ce sont des gens comme Anne-Marie qu'on vient d'entendre là dans un reportage sur France Info en 2018? Est-ce que ce sont des gens comme Anne-Marie qui viennent chez VRAC?
Alors il y en a. Il y a des gens comme Anne-Marie qui gagnent le RSA ou le minimum vieillesse. Il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup d'étudiants, de familles monoparentales, parce que aujourd'hui il y a plus de 10 millions de Français qui ne choisissent pas ce qu'ils mangent, qui consomment par défaut, comme on vient de l'entendre. Et nous, c'est vraiment pour ça, c'est pour réduire ces inégalités sociales qu'on œuvre depuis quelques années maintenant dans les quartiers populaires.
Pour essayer de montrer qu'on peut bien manger, manger bon, de bonne qualité, même avec 4 euros.
C'est difficile,
ça, c'est, dur, hein.
C'est vraiment difficile. Là, on est sur des revenus qui sont terriblement bas. On parle toujours de la question du prix des produits. Pour moi, là, la vraie problématique, c'est les revenus. C'est les aides qui ne sont pas suffisantes pour qu'elles puissent vivre convenablement et dignement. On est plutôt là-dessus. C'est trop facile de toujours mettre sur le dos du produit quand il y a des problématiques sociales très fortes. Mais 4 euros, c'est très très compliqué. Là, on est vraiment dans l'extrême précarité et un projet comme VRAC n'est pas encore suffisant aujourd'hui pour toucher ces personnes-là.
Alors pour bien comprendre VRAC, il faudrait peut-être partir d'une situation qui a été très très bien décrite dans un livre paru en 2021, un livre qui a d'ailleurs reçu le prix Mange Livre et dont vous êtes, Boris Tavernier, à l'initiative. Ce livre s'intitule « Ensemble pour mieux se nourrir », enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire, un livre publié chez Actes Sud en 2021, écrit par Frédéric Dornez et Alexis Génie, qui nous avions reçu à la bonne chose en avril 2021. Cette enquête montre comment on mange quand on est pauvre en France, quand on a peu d'argent, alors peut-être pas aussi peu qu'Anne-Marie, mais quand on est pauvre en France. Et l'idée, c'est qu'on mange mal. Souvent, quand on est pauvre, on mange mal. Est-ce que c'est une idée vraie? Est-ce que c'est une idée reçue, Boris Tavernier?
Non, c'est malheureusement souvent le cas. Aujourd'hui, même cuisiner des produits bruts coûte plus cher que d'acheter des produits transformés. Donc c'est quand même difficile, on n'a même plus cet argument-là. Non mais vous cuisinez, vous prenez des produits de saison et ça coûtera moins cher. Bah, c'est pas vrai, Nicole
Darmon. C'est pas toujours vrai.
Ouais, Nicole Darmon le montre en fait aujourd'hui, bah, les plats transformés qui sont vraiment pas les meilleurs en termes de nutrition aussi. Sont plus accessibles pour ces ménages. Il y a aussi la question des ustensiles de cuisine, du four. Utiliser un four, c'est 30% plus cher en termes de consommation qu'utiliser un micro-ondes. Donc voilà, il faut réussir à casser ça en trouvant des alternatives et en se rassemblant souvent pour mieux consommer.
Et il suffit pas de dire en fait, sur le long terme, vous vous y retrouverez parce que en termes de santé, vous aurez des gains économiques sur votre santé.
Non, on n'en est pas là. C'est la consommation au jour le jour. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est flairer les bons plans et on essaye de faire en sorte que VRAC soit aussi un bon plan dans les quartiers où il y a très très peu de choses. On s'est vraiment orienté sur les quartiers populaires parce que c'est vraiment la double peine dans ces quartiers-là. Même si vous avez envie de bien consommer, vous n'en avez pas les moyens. Même si vous avez envie de bien consommer, il n'y a pas d'offre sur votre territoire. Donc on oriente toujours sa consommation vers le moins cher, à défaut de la qualité, à défaut de la santé.
Et aussi cette question du désert alimentaire, c'est-à-dire que parfois c'est trop cher, parfois aussi c'est parce qu'effectivement on n'a pas accès à ces bons produits, c'est trop loin, il n'y a pas de marché à côté de chez soi, on n'a que des hypermarchés où les choses ne sont pas bonnes, pas toujours bonnes. En tout cas.
Ah ben, y a parfois des quartiers où il n'y a rien du tout. Il faut marcher une quinzaine de minutes pour trouver un petit supermarché. Donc quand on est âgé, quand on a des problèmes de mobilité, c'est hyper compliqué de se nourrir tout simplement.
Donc VRAC est là pour renverser la donne.
On essaye.
À renverser la donne. Alors l'idée, c'est justement que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit mal manger. C'est un peu ça, votre idée, Boris Tavernier.
Ah oui, c'est vraiment pourquoi on est contraint d'avoir une consommation différente quand on n'a pas d'argent. Et on le voit bien, on l'a vu encore plus pendant la crise, les personnes les plus touchées ont été les habitants des quartiers populaires parce que les taux de diabète et d'obésité sont 4 fois supérieurs à la moyenne nationale dans ces quartiers. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique que de bien se nourrir.
Oui, mais c'est vrai que trouver une alimentation qui est digne, qui est durable, ça n'est pas simple. Donc il faut nous expliquer, Boris Tavernier, comment vous faites, parce que c'est un objectif politique majeur, c'est un objectif quotidien majeur, manger bon, manger pas cher, ça devrait être possible, mais comment ça fonctionne pour que ça marche? VRAC, comment ça fonctionne ?
Eh ben, nous déjà en amont, on va travailler avec beaucoup de paysans, de producteurs, de fournisseurs et acheter en gros volume pour on paye le juste prix des paysans. Ça c'est vraiment très très important. C'est quelque chose que je fais depuis une vingtaine d'années, même dans mes activités antérieures.
Qu'est-ce que le juste prix, pardon de vous interrompre ?
Ben, c'est le prix qu'il est fixé par lui en fait c'est celui qui estime juste.
Il ne passe pas par un intermédiaire qui va augmenter le prix.
Voilà, ben, c'est déjà la base. Pas d'intermédiaire et gros volume, ça permet déjà de tirer vraiment les prix vers le bas. Ensuite, nous, le choix qu'on a fait avec VRAC, alors évidemment, on n'arrivait pas dans les quartiers en disant bonjour, j'ai des produits bio, vous allez voir, ça va être super, parce que c'est un rejet. Le bio, c'est pas pour nous, c'est pour les riches, puis c'est pas vraiment bio. Il y a toujours cette méfiance des choses auxquelles on peut pas accéder. Et donc, il fallait casser d'abord ces barrières-là. Et c'est par l'échange, par la discussion, donc c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui, on passe beaucoup de temps dans le quartier, à rencontrer les habitants, à rencontrer les associations, les centres sociaux, à créer un lien de confiance, et ensuite on fait goûter. Et là on se met au pied des immeubles, on ramène plein de produits, des fruits secs, des compotes, de l'huile d'olive, et on fait goûter aux habitants sans parler de bio, de circuit court, de quoi que ce soit. Et une fois que c'est validé en termes de goût, là il n'y a pas trop de risques, on est assez sûr de la qualité des produits, on parle de prix. Nous, le choix qu'on a fait avec VRAC, c'est de revendre ces produits au prix d'achat. Donc, il n'y a aucune marge qui est effectuée, ni le transport, ni la logistique qu'on a pu faire. Et parce que sinon, ce serait trop cher. Même si on marge de quelques pourcents, ce serait trop élevé pour ces publics. Et c'est encore trop élevé pour certains.
Donc, au départ, vous vendez du goût.
On vend du goût et complètement, mais c'est hyper important. Il faut retrouver ça aussi dans la cuisine. Il faut se nourrir, mais il faut aussi retrouver le plaisir.
Qu'est-ce qui fait que les gens sont convaincus en dehors du goût à vous écouter ?
Mais je pense qu'en cassant ces barrières effectivement du goût et du prix, en travaillant vraiment avec eux sur les produits, en allant visiter les paysans avec qui on travaille, ils retrouvent la confiance quoi. Et derrière en fait, il y a plein de questions. Oui, mais est-ce que ton apiculteur donne du sucre aux abeilles l'hiver? Est-ce que c'est vraiment bio? Et en fait, ils connaissent.
Et est-ce que vous payez vraiment bien les agriculteurs?
C'est hyper intéressant, c'est l'une des premières questions qui vient. Ouais, mais c'est pas cher, mais est-ce que le paysan est vraiment bien payé? Donc ils sont bien conscients que 50% des paysans en France gagnent le RSA, que 30% sont à 300 euros par mois. Donc cette solidarité dans la précarité, moi c'est quelque chose qui m'épate toujours. Et quand on se rend compte, quand on va sur place, on retrouve la confiance. Donc c'est au-delà des labels, au-delà de tout ce qu'on peut nous dire, c'est vraiment en rencontrant les gens sur leur terre qu'on peut retrouver la confiance en qui nous nourrit.
Il y a combien de vrac aujourd'hui, Boris Tavernier, en France ?
Alors aujourd'hui, on a monté 13 associations vrac en France et il y en a une qui arrive en Belgique là dans quelques temps.
Et ça fait combien de personnes qui travaillent pour vrac ?
On est 35 salariés aujourd'hui.
Et comment c'est financé ? Comment vous payez, vous ?
Alors, ça c'est toujours la question un petit peu difficile, mais aujourd'hui, une association doit à la fois répondre à un besoin sociétal, comme nous on peut le faire sur cette question d'alimentation, et générer de l'argent. C'était pas le cas il y a une vingtaine d'années où on pouvait avoir des financements publics pour répondre à ces besoins. Mais là, c'est vraiment cette start-up nation, hein, on va pas, il faut appeler ça comme ça, qui nous contraint. Et moi, dans le cas de vrac, évidemment, qu'on gagne pas d'argent en vendant des produits à prix coûtant. Donc, on est soutenu beaucoup par des bailleurs sociaux parce qu'on est dans les quartiers populaires et qu'on a construit ça avec eux dès le départ du projet. Eux voulaient travailler sur le reste à vivre de leurs locataires. Et on a créé aussi VRAC avec la Fondation Abbé Pierre, plutôt sur l'angle isolement, exclusion. Donc les bailleurs, c'est vraiment dans chaque ville, les bailleurs sont présents pour financer VRAC. Et après, c'est les collectivités. Donc quand un élu me dit « mais c'est quoi votre modèle économique ?», je lui dis « mais c'est vous en fait, c'est un choix politique. Et il faut plutôt imaginer ça comme un investissement plutôt qu'un coût, un investissement sur des dépenses de santé qui vont continuer d'augmenter. »
Donc quand vous ouvrez un VRAC dans une ville ou à proximité d'une ville, aujourd'hui, vous devez aussi aller convaincre les collectivités locales.
Oui, complètement. Oui,
de vous aider, de participer. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est-à-dire que on pourrait aimer se dire que la politique doit être avant. VRAC ne devrait pas être, en fait, en France. VRAC ne devrait pas avoir à exister d'une certaine façon.
Ah bah dans un pays riche comme la France, non, effectivement, on ne devrait pas exister.
Donc c'est presque inverser le processus normal des choses que d'arriver dans un endroit comme une collectivité locale en disant voilà, je suis obligé de m'installer là pour aider les gens qui n'ont pas assez pour bien manger et aidez-nous. C'est en amont que ça devrait être fait.
Tout se joue même déjà au niveau européen. Et là, il nous reste quelques semaines pour vraiment faire une énorme pression sur nos élus avant que la PAC soit complètement validée. Mais là, on est reparti pour 6 ans d'injustice aussi. Faut pas oublier que les prix de ce qu'on mange est aussi fortement lié à la politique agricole commune. Donc, si elle continue d'être orientée sur l'hectare, sur les gros, sur ces entreprises qui à la fois polluent la planète et polluent les gens aussi, en tout cas leur santé, ça va encore être compliqué ces prochaines années. Donc voilà, à défaut, on essaye, nous, de corriger ça à petite échelle sur les territoires. Et quand on s'installe dans une ville, ce qui est important, c'est qu'on crée une nouvelle association avec les collectivités, avec les acteurs du territoire. La réalité de Lyon n'est pas celle de Strasbourg, celle de Toulouse n'est pas celle de Bordeaux. Donc c'est vraiment avec tous les acteurs qu'on va construire la nouvelle association pour répondre aux besoins du territoire.
Vous parliez tout à l'heure, Boris Tavernier, de désert alimentaire, mais vous vous installez quand même en ville.
Oui, on est en ville effectivement, à la fois pour des raisons de volume, de quantité de produits, de financement aussi. Hein. C'est plus facile d'être dans des gros bassins de population, dans des métropoles où il y a quand même des moyens pour agir sur ces questions-là. Mais dans les quartiers où on est, il y a rien, il y a pas forcément de, il y a très peu de commerce ou alors un discounter et un marché où on a que des revendeurs, pas forcément de producteurs.
Comment vous situez-vous par rapport au système d'aide alimentaire?
La grosse différence, c'est vraiment, en tout cas, on milite pour que les gens puissent choisir et payer ce qu'ils veulent consommer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi, c'est vraiment la base de la dignité aussi, quoi. De pas être contraint de baisser la tête et de tendre les bras pour avoir un panier qu'on n'a pas choisi et qui est souvent de mauvaise qualité. Donc là, je sais que l'aide alimentaire a été fortement critiqué, et nous on l'a fait aussi dans ce bouquin, hein, et surtout dans le rapport IGAS de 2019 de l'État français, donc travaille sur la qualité. Mais aujourd'hui, ça fait quand même plus de 40 ans qu'on met un pansement sur une jambe de bois dans l'aide alimentaire, et c'est un vrai changement structurel dont on a besoin. Et c'est pas suffisant que d'essayer de mettre un peu de meilleurs produits. Il faut reconsidérer la personne, il faut qu'elle puisse de nouveau être actrice. Nous, chez VRAC, on essaye vraiment de faire en sorte que les adhérents, les habitants du quartier, soient pas juste des petites mains qui travaillent sur l'opérationnel, qui vont venir jouer à la marchande avec nous dans les épiceries éphémères, ce qui est génial, hein, on se régale. Mais ils sont aussi dans la gouvernance de l'association, ils sont aussi, ils représentent aussi le projet sur leur territoire, auprès de leur collectivité. Encore avant-hier, un adhérent est allé répondre à une interview avec un salarié de VRAC sur une radio. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces dimensions pour faire en sorte qu'ils soient de nouveau des consommateurs.
Est-ce qu'il faut adhérer donc à VRAC ?
1 euro l'année. Je pense qu'on peut difficilement faire plus bas.
Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé selon vous ?
Il y a eu une vraie prise de conscience, en tout cas chez les élus, chez les politiques. C'est plus simple aujourd'hui d'échanger avec eux sur ces sujets-là, de les convaincre. Il y a quand même beaucoup plus de facilité, de souplesse et même une envie d'aller plus loin dans des projets pour vraiment essayer de résoudre cette problématique. Donc ça, c'est quand même déjà un luxe qui est assez fort quand on s'est vraiment battu parfois pendant des années pour récupérer pas grand-chose. Là, ça fait du bien aussi. On a eu aussi, nous, cette reconnaissance de l'État avec le plan de relance et avec l'habilitation d'aide alimentaire. On est la seule structure aujourd'hui de l'aide alimentaire qui n'est pas liée aux invendus, qui n'est pas liée au gaspillage. Et ça, c'est aussi une énorme différence qu'on peut avoir avec les autres structures.
Bon, on vous retrouve dans quelques petites minutes, puisqu'il est midi et quart sur France Culture, et que dans les bonnes choses à midi et quart, c'est l'heure de la Madeleine.
Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin chaud?
Le vin chaud débronzé pour amener la Madeleine de Matteo Caranta. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. J'ai rencontré le grand écuyer Bartaba, celui qui a porté avec sa compagnie Zingaro et l'Académie de spectacle équestre de Versailles l'art de converser avec les chevaux, de leur donner la parole et de les mettre en scène dans des spectacles qui tournent autour de l'univers du cirque, des cultures tziganes et du cabaret. Le cabaret de l'exil, justement, c'est son nouveau spectacle qu'il commence le 19 octobre au Fort d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, l'occasion de visiter des écuries et d'écumer ses souvenirs.
Ma Madeleine est surtout liée à l'odeur, parce que c'est mon côté animal, je pense. Mais là, j'avais envie de vous parler un peu de l'odeur, puis du goût du vin chaud, parce que le vin chaud, c'est ce qu'on a servi il y a une trentaine d'années pendant les cabarets, donc pendant 4 ans, tous les soirs. On servait aux spectateurs du vin chaud qu'il fallait préparer, qui embaumait toutes les écuries à chaque fois, puis la salle, quoi. C'est une espèce de folie, un mélange de côté barbare, du côté aristocratique, du côté serveur en gants blancs et en même temps de crottin et de mélange d'odeurs de chevaux, de sueur, de hurlements et de musique tzigane. C'était tout ça le cabaret, quoi. C'était un chariot de cloche qui vient sonner le tocsin à la fin du spectacle. C'est un corbillard alambic qui arrive pour servir justement le vin chaud. Un orgue qui joue mélangé avec une odeur d'encens. Voilà, puis une espèce de folie, de liberté, de vitesse. Nous étions des adolescents pendant 30 ans. Et donc c'est une odeur très particulière, hein, qui est un mélange de vin sucré, de cannelle, de clou de girofle. Donc c'est assez particulier, c'est assez nostalgique. C'est souvent un souvenir de Noël aussi, le vin chaud. Voilà, ça vient à l'origine presque des pays de l'Est, hein, de Roumanie, de Pologne. Donc c'est pour moi, c'est mon enfance théâtrale, on va dire. D'abord, il y a l'odeur du vin, mais le vin réchauffé, c'est très particulier, le vin cuit, quoi. Le vin brûlé, d'ailleurs, c'est pas le vin cuit, c'est le vin brûlé. Et puis tout de suite surgit le clou de girofle d'abord, quoi. Cette petite odeur comme ça qui évoque le dentiste aussi. Et puis, le dentiste de notre enfance. Et le clou de girofle qu'on se met dans la carie aussi quand on a très mal. Et puis après, il y a des épices. Et donc, on va remettre à la mode, on va dire, le vin chaud pour ce spectacle, puisqu'on a décidé dans le cabaret de l'exil de commencer par la culture yiddish et la musique klezmer, donc évoquer un peu toute cette culture des pays de l'Est. Et donc, je m'apprête à me replonger pour tout l'hiver dans ce souvenir et gustatif et olfactif.
Voilà la Madeleine de Bartabas par Matteo Caranta. Vous avez grandi dans le Nord, mais vous êtes lyonnais au départ. Boris Tavernier ?
Oui, ça fait 20 ans maintenant que je suis à Lyon, mais oui, effectivement, j'ai passé toute ma jeunesse dans le Pas-de-Calais.
Voilà, donc ça, c'était dans le Pas-de-Calais. Est-ce qu'on buvait du vin chaud dans le Pas-de-Calais quand
vous
étiez petit ?
Non, c'est quand même plutôt une culture autour de la bière chez nous.
Bon, donc pas de vin chaud, tant pis, dans la petite commune de Frévent.
Hein, exactement.
Où vous passiez beaucoup de temps à jouer dehors, ça c'est ce que j'ai lu.
Et même sous la pluie, même sous la pluie.
Est-ce que vous vous souvenez du petit potager de votre père et de ses merveilles ?
Ah mais oui, mais il l'a toujours aujourd'hui, même à 73 ans, il continue de travailler son jardin, qui est quand même composé, je dirais, à 80% de pommes de terre. Hein. C'était
notre... Les merveilles, c'est avant tout les pommes de terre.
Ah, mais c'est la pomme de terre sous toutes ses formes, au beurre, évidemment, à l'eau, au four, mais surtout en frites.
C'est ça, c'est ça, votre madeleine, c'est la frite de votre père.
Et là, j'ai eu la chance de remonter récemment et de faire le plein. Je me sens vaillant.
Est-ce que c'est, à votre avis, de là qu'est née cette envie de partager, de transmettre cet amour des bonnes choses qui viennent de la terre, qui sont bien faites et qui devraient être accessibles à tous et à toutes?
Alors, moi, j'ai pu grandir effectivement avec un grand-père qui était ouvrier agricole, qui est journalier, quelque chose qui n'existe presque plus à l'époque, et puis avoir pas mal de familles qui avaient des fermes. Mais j'ai vraiment plutôt conscientisé ça plus tard, autour d'une vingtaine d'années, avec à l'époque le mouvement altermondialiste qui se développait, avec José Bové qui allait démonter le McDo de Millau. Donc voilà, on a commencé à réfléchir un petit peu à cette problématique alimentaire et au monde paysan. Et avec deux amis, on s'est lancé un peu dans une aventure aussi à cette époque-là, au début des années 2000, de monter un bar où on pouvait remplacer les produits classiques qu'on trouve par des produits bio, par des produits
déjà
locaux. Oui, on voulait vraiment. Mais là, à l'époque, c'était vraiment le soutien du monde paysan. On voyait qu'il y avait des paysans qui essayaient de bien travailler et qui n'avaient pas forcément beaucoup de débouchés. Donc voilà, nous on voulait essayer d'être cohérents avec nos idées, on a monté une coopérative et on s'est lancé là-dedans, ce qui était difficile. On a mis plus d'un an. Aujourd'hui, on peut monter un lieu comme ça en 15 jours. Parce qu'il n'y avait rien de référencé, il y avait très peu d'offres. Il devait y avoir 4-5 brasseurs de bière sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'aujourd'hui, il y en a des centaines. Mais voilà, c'était, on s'est régalé pendant une dizaine d'années.
Le bar de l'autre côté du pont.
Exactement,
à Lyon. Et aujourd'hui, vous organisez des concours de cuisine, comme quoi vous faites des tas de choses différentes.
Oui, parce que à chaque fois, c'est vraiment une rencontre qui va donner lieu à un projet. Et sur les concours de cuisine, j'étais à Vaux-en-Velin, au bas du Taureau, avec des adhérentes de Vrac. Puis elles commencent à se chamailler, mais la meilleure cuisine, c'est évident, elle est marocaine. Mais non, elle est tunisienne, mais non, je suis pas d'accord, elle est turque. Et là, je dis, bon, on va pas se fâcher, on va faire un concours de cuisine et on va voir. Et on va voir qui aura la meilleure cuisine. Et ça a vraiment démarré comme ça. Et on en fait tous les ans maintenant. Et on a encore eu un ce week-end à Rieux-la-Pape. Et on en fait dans toutes les villes où Vrac est présent. Et ça nous permet déjà de faire un événement festif sur le quartier. Ça, c'est hyper important. D'un événement fédérateur. Et puis, ça nous permet aussi de travailler sur une consommation moins carnée. On impose, dans les règles du concours, en tout cas dans les places salées, on impose des plats végétariens.
Pour quelle raison ?
Ben en fait, c'est hyper difficile. La viande, c'est un marqueur social qui est très fort. Quand on est pauvre, on mange de la viande. Il y a eu plein de débats là-dessus, notamment à Lyon.
Pourtant, la bonne viande est chère.
La bonne viande est très chère, donc on mange de la viande de mauvaise qualité, mais on en mange presque deux fois par jour. Mais on peut pas dire à quelqu'un comme ça, non mais mange pas de viande, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour la planète, c'est hyper condescendant et moralisateur. Donc si c'est dans les règles d'un concours, ça marche. Alors évidemment, ça râle un petit peu. On a eu au concours de Vrac Paris une dame qui nous disait, mais qui avait 70 ans, mais j'ai jamais cuisiné végétarien de ma vie. Donc on bouge un petit peu.
Je vais perdre le concours.
On bouge un peu les habitudes. Et en fait, quand un chef étoilé vous dit que votre plat végétarien, il pourrait le mettre à la carte de son restaurant, que en fait avec les épices, avec les légumes, vous avez réussi à faire un super jus. On a goûté des tièbes sans poisson, des poulets yassa sans poulet, qui étaient super bons. Et en fait, quand quelqu'un de reconnu vous dit que ce plat il est très bon, ça fait cogiter. On se rend compte, bah oui, il est joli, il est bon et il coûte moins cher aussi pour le porte-monnaie. Donc voilà, ça nous permet aussi de bouger un petit peu les lignes de cette façon-là.
De faire bouger les mentalités grâce à vos concours de cuisine également. Et alors, c'est à l'origine d'un livre, Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, et d'un autre que vous venez de me donner, Reste d'enfance, parce que Vrac édite aussi, c'était aux éditions Vrac.
Oui, c'était les éditions Vrac.
Qu'est-ce que c'est alors les Restes d'enfance? C'est la suite de Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs?
Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs, c'est vraiment la suite du concours de cuisine. Quand j'ai vu au premier concours de cuisine, ce fameux concours à Vaux-en-Velin, les visages de ces femmes, parce que c'est très féminin, à l'image de Vrac, et puis à l'image des quartiers où c'est les femmes qui gèrent la quotidienneté, l'éducation, l'alimentation. Quand j'ai vu leur sourire et que je savais que moi, elles avaient des tonnes de choses à raconter et qu'elles n'avaient pas de lieu ou qu'on ne les entendait pas, j'ai eu envie de se faire ce livre où j'ai invité Alexis Génie qui écrivait dans mon bar à l'époque. Donc on se connaissait juste comme ça. Et on s'est invité à manger avec un photographe, un dessinateur, chez 15 femmes des quartiers populaires, adhérentes de Vrac, qui autour d'un plat nous ont raconté leur vie. Et on a des histoires très dures, très belles. On s'est retrouvés au Cambodge avec les Khmers Rouges, on s'est retrouvés en Irak avec Daesh. Et elles gardent le sourire, elles gardent une force. On a pris une vraie leçon de vie avec ce livre qui nous a fait voyager ensuite. On a été invité dans plusieurs endroits pour le présenter, et notamment en Égypte et au Liban. Ce qui m'a donné envie de faire Reste d'enfance en rencontrant plusieurs journalistes culinaires, écrivains. Je me suis dit,
dont l'ami Jackie Durand, qui ouvre le livre.
Et là, c'était vraiment, c'était pour se faire plaisir. Et l'idée, regardez, avec des restes, on peut quand même faire des bons plats et puis raconter une belle histoire.
Un livre peut-être à donner dans les écoles. La prochaine étape, c'est les écoles, non?
J'ai tenté depuis les états généraux de l'alimentation il y a quelques années et je milite toujours là-dessus. Il y a un enjeu hallucinant. Il faut des cours d'alimentation à l'école. Enfin, pour moi, c'est les enfants sont les consommateurs de demain. Ils sont aussi prescripteurs pour leurs parents. Donc, il y a des projets qui existent. Il y a Camille Labreau avec l'école comestible. Il y a Réseau Marguerite sur l'agglomération lyonnaise qui s'investissent beaucoup dans les écoles. Nous, on a pu travailler 2-3 ans avec eux. Et en fait, c'est hallucinant quand on, moi, j'ai toujours une anecdote assez rigolote. On travaille avec des enfants de 6e au Minguette à Vénissieux. Et puis, on va visiter un producteur, un horticulteur. On va à l'Institut Paul Bocuse. En dessin, ils travaillent sur le dressage d'une assiette. Et puis j'ai un gamin qui me caboule, qui me dit, moi je suis embêté, je voulais faire une gelée de fraises en dessert, mais bon, on est tous musulmans, donc je peux pas utiliser de gélatine de porc. Qu'est-ce que t'en penses, Boris, si j'utilise de l'agar-agar? Donc c'est un gamin de 11 ans qui te parle d'agar-agar. Je dis, on touche quelque chose, quoi. Donc ouais, il y a un véritable enjeu à insister là-dessus.
Vous parlez des écoles, on pourrait aussi évoquer l'idée d'une sécurité sociale pour l'alimentation qui fait son chemin. Qu'en pensez-vous?
Moi j'en pense que du bien parce qu'on milite beaucoup. Alors c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi par des chercheurs, par la Confédération Paysanne, par Ingénieurs Sans Frontières. Il y a vraiment beaucoup de monde, le réseau CIVAM qui travaille sur cette question-là. L'objectif c'est vraiment que chacun puisse accéder à des produits de qualité. Il faut quelque chose d'universel pour que ça fonctionne. On dit toujours une politique pour les pauvres, c'est une pauvre politique. L'universalité, en tout cas, c'est important. Quand vous allez chez le médecin, que vous soyez riche ou pauvre, vous vous êtes remboursé de la même manière. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est 150 euros par personne, par mois, orienté sur l'alimentation durable, bio, locale. Donc c'est évidemment que c'est un projet qui coûte cher. Ça fait à peu près 120 milliards d'euros par an, ce qui est bizarrement équivaut à l'évasion fiscale en France. Donc je pense que l'argent existe. S'il n'est pas là, on pourra le trouver autre part. Mais il y a un vrai enjeu à la fois sur l'accès à l'alimentation et sur la production. Ça permettrait de continuer de développer de nouvelles filières. Aujourd'hui, on est encore très très loin des objectifs en terre agricole, en bio.
Plus que le chèque alimentaire évoqué par Emmanuel Macron un temps?
Alors le chèque alimentaire, on a travaillé dessus avec les copains du Secours catholique, avec le réseau Action Climat notamment. C'est une première pierre. C'était la première fois que, en tout cas, le gouvernement proposer un programme où on ne liait pas l'alimentation aux invendus et au reste. Donc c'était déjà une première pierre. Donc on a essayé d'améliorer le dispositif et puis ça a été retoqué pour la loi climat comme beaucoup de choses. Et là on a appris par Olivier Véran que ça n'existerait pas sur ce mandat.
Il vaut mieux continuer de travailler sur la sécurité sociale pour l'alimentation et sur l'éducation à l'école. On arrive bientôt en 2022, année de la gastronomie, année d'une élection présidentielle. Boris Tavernier, si vous aviez une chose à dire, à demander à un candidat à l'élection présidentielle en cette année de la gastronomie qui arrive, vous diriez quoi? Vous auriez envie de lui demander quoi?
Moi, j'aimerais déjà commencer par une petite victoire de travailler sur la défiscalisation et que les grandes surfaces ne bénéficient plus d'argent. Aujourd'hui, c'est 360 millions d'euros par an qui retournent aux grandes surfaces pour qu'ils puissent donner leurs invendus. Si on pouvait déjà, excusez-moi Monsieur Guillaume Garot, mais en tout cas, votre loi partait d'une bonne intention, mais les dérives sont trop grosses, donc si on pouvait déjà en finir avec la défisque, ce serait déjà pas mal, avant d'attaquer la sécurité sociale de l'alimentation.
Et on en reparlera.
J'espère bien.
Merci Boris Tavernier d'être venu aux Bonnes Choses ce midi. Les Bonnes Choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, June Loper et notre technicien du jour Arthur Dumont. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.